Vous asseoir. Je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 12. Actes, chapitre 12. Et le dernier cantique, en fait, je pense que la plupart des cantiques nous préparaient à ce message. On va regarder ensemble ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Et j'aimerais vous, pendant que vous cherchez ce passage, j'aimerais vous inviter à penser à Jésus-Christ lorsque vous traversez une crise ou une situation difficile. Bon, je pense qu'il n'y a personne qui est épargné par des problèmes. On fait tous face à des problèmes, et ce, presque à tous les jours. Mais il nous arrive assez souvent de vivre une crise importante. Et nous ne savons vraiment pas vers qui nous tourner jusqu'à ce que nous nous tournions ou que nous réalisions finalement que vers la seule personne vers qui nous pouvons nous tourner, c'est la personne de Jésus-Christ. Une crise, elle peut survenir de façon tout à fait inattendue. Ça va bien dans votre vie. Et finalement, ça arrive de nulle part, sans que vous vous y attendiez, et vous vous retrouvez face à une situation où vous ne trouvez même pas de solution pour vous en sortir. Quelqu'un a dit ceci, « Si vous pouviez garder toute votre tête lorsque ceux qui sont autour de vous la perdent, cela pourrait être seulement un signe que vous n'avez pas réellement saisi la gravité de la situation. Ou encore, il est impossible que vous ne compreniez pas certaines choses, ou que vous ne comprenez pas certaines choses que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et je vous invite à partir du chapitre 12 à lire les versets 1 à 7. On va voir plusieurs versets, mais on va commencer par les versets 1 à 7 ce matin. Et on va voir ce que Dieu veut nous adresser comme message. C'est important, moi je le répète assez souvent, vous avez tous des beaux visages ce matin, vous êtes tous parfumés, vous êtes tous lavés, vous avez de l'air tous heureux. Mais moi, je ne suis pas capable de lire dans votre cœur. Le Seigneur, il est capable de lire dans votre cœur. Il sait ce que vous avez besoin ce matin. Il sait ce que j'ai besoin aussi ce matin. Et ce que le Seigneur veut, finalement, c'est faire en sorte que ses enfants soient enrichis. Enrichis de cet enseignement qu'il veut transmettre à chacun de nous ce matin. Acte chapitre 12, versets 1 à 7. « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. » Alors, Pierre devait être un prisonnier important. Ils mettent le planter avec 16 soldats. Pour Hérode, ça devait être quelqu'un de super important. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Donc, enchaîné après un, enchaîné après l'autre, Pierre dort entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en lui disant « « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et on va voir un peu plus loin. On va continuer la lecture un peu plus tard. Je vous invite à courber la tête, à fermer les yeux. On va prier. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la liberté de pouvoir avoir toutes les versions de Bible que nous pouvons trouver sur le marché. Merci, Seigneur, parce que contrairement à ceux qui nous ont précédés des siècles auparavant, Seigneur, nous avons accès à ta parole comme nous le voulons 24 heures sur 24. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce de cette faveur que tu nous accordes, de pouvoir méditer tes Écritures sans avoir la crainte de nous faire arrêter, sans avoir la crainte, Seigneur, de ne pouvoir nous réunir ensemble dimanche après dimanche et semaine après semaine. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te laisser toute la place qui te revient, parce que c'est ta parole que nous voulons entendre et non pas la parole d'un homme. Et nous te prions, Seigneur, parce que tu connais les besoins de chacun ici. Nous te prions, Seigneur, que chacun puisse ouvrir son cœur afin de recevoir la portion que tu en réserves pour nous tous. Bénis, que cette parole soit bénie, que ton Saint-Esprit puisse agir dans nos vies et que nous puissions quitter ce lieu en ayant la certitude que tu nous aimes. Que tu nous aimes, Seigneur, autant que tu aimes ton Fils, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile de Jean. Tu nous aimes autant que tu m'aimes, Jésus. Seigneur, ça a une portée incroyable. Nous avons de la difficulté à saisir cette vérité. Voilà pourquoi tu veux nous partager ta vérité ce matin. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors, permettez-moi rapidement de vous rappeler le contexte de ce passage. Hérode était un roi méchant et impitoyable, bref, un sanguinaire, et il voulait torturer, contrarier et déranger l'Église. Il avait déjà fait arrêter Jacques, le frère de Jean, et il avait fait mettre à mort. Voyant que cela plaisait à la foule, eh bien, Hérode se dit, très bien, pas de problème, je vais faire arrêter quelqu'un encore de plus important que Jacques, je vais faire arrêter Pierre. Et il va faire arrêter Pierre, il va le faire jeter en prison, et ce, dans le but de le faire mourir. Hérode ne faisait pas de cadeau à personne. Voilà donc la situation, et Pierre vivait une situation de crise extrême. Une crise extrême. Je ne sais pas comment vous réagiriez si on vous arrêtait parce que vous êtes chrétien, et que déjà vous savez que le lendemain, eh bien, c'est votre tête qui va tomber sur le bûcher. Je ne sais pas quel genre de nuit vous passeriez. Mais ici, on a quelque chose de très important pour nous dans cet enseignement, à travers l'apôtre Pierre, et nous rappeler aussi, nous centraliser sur ce qui doit être le plus important pour nous, et on va regarder ça, en tout cas, je ne vais pas devancer ce que je veux dire, mais on va regarder ça ensemble ce matin, je pense que ça va nous fortifier, un message qui va nous encourager, parce que je pense qu'une des lacunes dans l'Église aujourd'hui, c'est le manque de prière de la part des enfants de Dieu. Alors, on va regarder ça ensemble. Comment réagissez-vous, vous, personnellement, quand vous vivez une situation de crise? Comment réagissez-vous? Vous avez des problèmes avec vos enfants, vous avez des problèmes avec votre femme, vous avez des problèmes avec votre mari, vous avez des problèmes même avec des frères et sœurs en Christ. Comment réagissez-vous lorsque vous vivez une crise importante? Comment réagissez-vous lorsque vous faites face à une situation extrêmement difficile et que vous ne voyez aucune solution pour la résoudre? Sur qui vous appuyez-vous pour essayer de non seulement de bien comprendre la situation, de bien la cerner, mais sur qui vous appuyez-vous pour vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes? Alors que c'est peut-être tout à fait indépendant de votre volonté. Ça ne veut pas dire que parce que vous vivez des problèmes, que c'est vous qui avez provoqué les problèmes. Mais comment réagissez-vous lorsque vous baignez dans une... Je prends l'exemple d'un mari qui trompe sa femme, d'une femme qui trompe son mari, finalement qui l'abandonne avec les enfants, la femme se retrouve tout seule. Bien, des fois, c'est inattendu. Hein? Il y a des maris ou des femmes, parce que pas juste des maris qui trompent leur femme, il y a des femmes qui trompent leur mari aussi, hein? Mais vous rentrez une journée dans la maison, vous avez vos trois enfants, vous êtes à la table, vous êtes en train de leur faire à manger, et là, votre mari vous annonce qu'il vous quitte. Demain matin, je ne suis plus là, je viens faire ma valise parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc, je ne t'aime plus, j'aime bien une autre femme que toi. Ou ça peut être les hommes. C'est fréquent aujourd'hui, hein? Je ne sais pas si vous allez chercher des contacts à droite et à gauche. Moi, je reçois des confidences, c'est fréquent aujourd'hui. Particulièrement quand les gens ont un cancer, bien souvent, pour certains maris ou pour certaines femmes, elles ont un cancer, elles suivent la chimiothérapie, elles sont plus bonnes à rien ou plus bonnes à rien, et finalement, des gens les abandonnent là à l'hôpital en plein traitement et on va trouver quelqu'un d'autre. C'est des situations qui sont indépendantes de notre volonté, mais ça devient finalement une crise extrêmement importante pour une personne, quoi. Hein? Une femme qui se retrouve avec trois enfants, c'est quand même un gros problème qui lui tombe sur les bras, quoi. Surtout quand c'est des enfants 2, 3, 5, 6 ans, c'est un gros problème, quoi. Et quand on a un cancer, qu'on est en pleine chimio, qu'on a besoin vraiment d'un soutien moral, eh bien, que la personne avec qui on est marié depuis 30, 40 ans nous abandonne, ça devient aussi une grosse crise importante. Comment on réagit face à ces situations-là? Parce que ce n'est pas juste les gens du monde qui vivent ça. Ça arrive maintenant dans l'Église, malheureusement, qu'on vit aussi ces choses. J'aimerais vous partager quatre choses que vous aurez besoin de vous rappeler lorsque vous vivrez une situation difficile dans le futur. Peut-être que vous vivez en ce moment une situation extrêmement difficile, et je pense que vous en aurez besoin, si c'est le cas, vous en aurez besoin aujourd'hui, et si ce n'est pas le cas, je suis persuadé que vous en aurez besoin dans le futur. Premièrement, on doit accepter de ne pas toujours comprendre la providence de Dieu. En tant que chrétien, on doit accepter de ne pas toujours comprendre ou saisir la providence de Dieu. Je vais expliquer. Lorsque nous examinons ce chapitre, il y a un mot qui ressort et c'est le mot « providence ». C'est-à-dire que Dieu va travailler dans l'ombre pour arranger les choses que les gens ne peuvent pas voir. Et cela peut être le cas pour vous ce matin. On appelle ça la main cachée de Dieu. Dieu travaille dans l'ombre pour résoudre vos problèmes. Mais si vous essayez par vous-même de résoudre vos problèmes, Dieu n'interviendra pas. Alors, on a besoin, en tant que chrétien, de dire, quand je vis une situation difficile, « Seigneur, augmente la mesure de ma foi pour pas non plus que je vienne contrecarrer tes plans, parce que je ne connais pas tes plans, je ne connais pas ta volonté, je ne sais pas pourquoi je le vis, mais Seigneur, je veux te faire confiance, je sais que ta main est là, Seigneur, je sais que tu travailles dans l'ombre, je sais que c'est pour mon bien. » Seigneur, fais en sorte que, augmente la mesure de ma foi pour que je puisse vraiment te laisser la liberté d'agir dans ma vie. Dieu est à l'œuvre, mais vous ne pouvez pas le voir agir. Vous êtes en train de vivre une situation chaotique où rien ne vous paraît être logique. Et le pire, c'est que vous pensiez peut-être que la situation était déjà réglée. Mais elle refait surface et le diable tire de son côté. Chers amis, ce n'est pas parce que vous vivez quelque chose qui n'a aucun sens que cela signifie qu'il n'y a plus rien qui va. Par exemple, en ce qui concerne ce chapitre, nous pourrions nous demander pourquoi Dieu a laissé Hérode devenir roi? Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Dieu connaissait tout l'avenir, il savait qu'il ferait mourir Jacques, il savait qu'il ferait condamner Pierre. Dieu est Dieu, pourquoi Dieu permet ça? En tant que chrétien, on a le droit de se poser la question, pourquoi Dieu permet ces choses? Pourquoi? Puisqu'il vit dans l'éternité, qu'il connaît toutes choses d'avance. Comment Dieu pouvait-il laisser une racaille comme Hérode être roi? Pourquoi, encore une fois, je le répète, a-t-il laissé Hérode tuer Jacques? Puis Pierre sortir de prison? Pourquoi? Est-ce que Dieu a fait du favoritisme? Pourquoi il permet, il n'intervient pas concernant Jacques, il laisse mourir? Et pourquoi concernant Pierre, il envoie un ange le faire sortir de prison? Est-ce que Dieu aimait plus Pierre que Jacques? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu avait perdu le contrôle? Et pourquoi toutes ces choses arrivent-elles? Il est bon de se rappeler que nous ne pouvons pas toujours expliquer pourquoi nous vivons telle ou telle chose. La vie comporte souvent des mystères et nous devons parfois prendre du recul pour voir encore une fois ce que j'appelle la main cachée de Dieu, qui est ce qui est à l'œuvre, et on doit accepter cet état de choses. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu agir que cela signifie que Dieu n'agit pas. Entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament, personne n'entend parler de Dieu et ça dure 400 ans. Mais Dieu travaille dans l'ombre. Il est en train de préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les gens à l'époque faisaient, « Mais Seigneur, tu ne nous parles plus, on ne te voit plus, on n'entend plus parler, on ne voit plus ta main bénissante intervenir, Seigneur. » Et c'est la période des Maccabées et tout ça, hein? « Oh Seigneur, tu n'interviens pas. » Mais Dieu travaille dans l'ombre. Dieu travaille avec sa main cachée. Il est en train de préparer la venue de Jésus-Christ. Et il va envoyer un précurseur, il va envoyer un héros, H-E-R-A-U-L-T, ou R-A-U-T, ceux qui sont bons en français. Bon, mais ce n'est pas H-E-R-O-S. Hein? Il va envoyer Jean-Baptiste, qui va venir finalement annoncer la venue de Jésus-Christ. Nous sommes en présence ici d'un roi cruel. Nous apprenons que Jacques est mort et que Pierre a été relâché. Et pourtant, Dieu demeure en contrôle de toute situation. Nous appelons cela la souveraineté de Dieu. Nous appelons cela la providence de Dieu en nous rappelant que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son plan. Tout concourt au... Et ça, c'est dur à encaisser, ça, hein? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment Pierre, dans sa cellule, imaginez s'il marche par la chair, comment peut-il dire, « Seigneur, j'ai vécu 3 ans avec toi, c'est vrai que je t'ai renié, tu m'as pardonné, tu m'as donné un ministère incroyable, Seigneur, comment, je suis en prison, comment cela peut-il concourir à mon bien? » Et on vit des situations en tant que chrétien, tant qu'on ne voit pas l'aboutissement, tant qu'on ne voit pas la conclusion, c'est des questions qu'on se pose. « Hey, Seigneur, j'ai rien à m'approcher pour l'instant. Pourquoi ça m'arrive? » Et dans le travers ce que je vis, comment, Seigneur, cela peut-il concourir à mon bien? Il y a une chose que je dois vous dire ce matin. Le Seigneur, il nous connaît beaucoup plus que nous, on peut se connaître. Et il connaît beaucoup plus ce dont nous avons besoin, que nous pouvons savoir ce dont nous avons besoin. Et c'est le but ultime, c'est que Dieu veut se glorifier et faire en sorte qu'on ressemble à Jésus-Christ. Si on perd cela de vue, hein, on va devenir des chrétiens déprimés, on n'acceptera jamais la persécution, on n'acceptera jamais d'être nié par personne, on n'acceptera jamais, finalement, de vivre des choses qui sont terribles, mais Dieu vise deux choses, nous amener à ressembler à Jésus-Christ et se glorifier à travers ce qui nous appelle à vivre. C'est les deux raisons pourquoi Dieu nous garde sur cette terre. Et Dieu se glorifie à travers l'évangélisation. Dieu se glorifie à travers la sanctification. Dieu veut se glorifier à travers ses enfants. Amen. C'est vraiment important qu'on retienne ça. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on soit bien sur la terre. Non. Nulle part vous trouvez ça dans la Bible. Hein? Nulle part. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous. Regarde en haut. Heureux êtes-vous. Oui. Il y a des promesses pour vous. Maintenant et pour le futur. Maintenant et pour l'éternité. Mais Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit mieux, pour qu'on soit bien. Non. Dieu nous a sauvés pour se glorifier à travers nous et faire de nous des gens qui vont ressembler à Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi tout leur sourit dans la vie. Et à d'autres occasions, ils ont l'impression que le ciel va leur tomber sur la tête. Frères et sœurs, les bons et les mauvais jours se côtoient et agissent ensemble pour notre bien. Nous préférerions tous vivre sans connaître de mauvais jours. Job disait à son époque que la vie de l'homme est courte et sans cesse agitée. Et ça me fait sourire des fois, c'est bizarre, c'est une pensée qui me revient à chaque fois que je marie un couple. Je me dis, ah, c'est une belle journée aujourd'hui, profitez-en pour vous. Je ne le dirai pas dans un message, bien sûr. Hein? Profitez-en pour vous, parce que la vie est courte et elle est agitée. Ouais. Vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Amen, là, pour les plus vieux, hein? Oui, hein? Oui. Oui. Et surtout, quand on est chrétien, le diable ne nous laisse jamais, jamais tranquille son vie pour l'avancement du royaume de Dieu. Jamais, jamais, jamais. La vie, elle est agitée. La vie, souvent, elle est super agitée pour certains chrétiens privilégiés. La vie vous réserve de bonnes et de mauvaises choses, et Dieu, dans son infinie sagesse, mélange ces choses ensemble pour sa gloire en nous rappelant que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Vous ne serez jamais capable d'expliquer pourquoi Dieu permet certaines choses et Dieu n'a pas à se justifier. Ce qu'il nous est demandé, c'est de vivre en nous appuyant sur ses promesses et ce, même si nous n'avons pas tout compris. Ce qui m'a permis pendant un an de vivre la tête au-dessus de l'eau, plus qu'au-dessus de l'eau, de vivre le corps au-dessus de l'eau. C'est le psaume 55, 23, l'importance de méditer les Écritures. Je l'avais médité et dans les épreuves, Dieu, c'est ce qui m'a permis d'être soutenu pendant toute cette année 2015. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel et il te soutiendra, car Dieu ne laisse jamais le juste chansonner. Quand vous méditez chacune des paroles, remets ton sort, pas à n'importe qui, remets ton sort à l'Éternel, celui qui est l'auteur de ton salut, celui qui te connaît mieux que toi-même, remets ton sort et il va te soutenir. C'est quelqu'un qui ne te laissera jamais tomber, contrairement à des amis, jamais il va te laisser tomber. Parce qu'il ne laisse jamais le juste chanceler. Maintenant, vous dites, mais ça ne se peut pas, pourtant je suis sauvé, moi, puis ça m'arrive de chanceler. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu as repris ton sort entre tes mains. La promesse, elle est claire. Si tu remets ton sort à l'Éternel, il va te soutenir. Mais si tu veux reprendre ton sort entre tes mains et régler tes problèmes, bien, ça arrive que tu chancelles. Non seulement que tu vas chanceler, mais que tu vas tomber parce que tu essaies de régler tes problèmes par toi-même. La promesse, elle est claire. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel. Et voilà la promesse. Il te soutiendra, car il y a deux promesses. Il te soutiendra, car il ne laisse jamais le juste chanceler. Amen! Lorsque j'étais un enfant, je me demandais pourquoi Dieu avait mis des vitamines dans les épinards et non pas dans la crème glacée. Eh bien, c'est vrai, hein? Quand on est enfant, la crème glacée, ça goûte mieux que... Je le vois avec mon petit-fils, hein? Il aime beaucoup plus manger du yaourt que prendre des légumes, des épinards et des légumes. Hein? Et c'est normal chez les enfants. Le goût du sucré, c'est... Hein? Tu lui donnes des épinards et tu lui donnes du sucré. Vous voyez la langue qui fait le tour, là? Ça se promène partout, il ne veut pas manquer... Il ne veut pas laisser tomber une saveur, hein? Faut qu'il la bouffe. Hein? Mais c'est bouffer, c'est vulgaire ici. Alors, disons qu'il ne veut pas rien perdre. Hein? Voilà. Un autre continent, une autre culture, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas parce que cela n'a aucun sens pour nous que cela n'a pas de sens pour Dieu. Si vous vivez une crise, une situation difficile, ne cherchez pas à comprendre, faites confiance à Dieu. Deuxièmement, la prière est un ministère réservé à tous les membres du peuple de Dieu. À tous les membres du peuple de Dieu. Deux ministères qui sont réservés à tous les membres du peuple de Dieu. La prière et l'évangélisation. La prière, elle est réservée à tous les membres du peuple de Dieu. Quel est le ministère du peuple de Dieu? C'est la prière. Regardez ce qui est écrit au verset 5 ici. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Priez sans cesse, dit Jésus, l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Voilà un verset important sur la prière, frères et sœurs. Il semble ne plus y avoir d'espoir pour Pierre. Il est emprisonné dans une prison à sécurité maximum. Il y a 16 gardes qui surveillent Pierre et en plus de cela, il est enchaîné, comme je l'ai dit, un garde à sa gauche, un garde à sa droite. Et nous pouvons dire sans trop nous tromper que Pierre est vraiment dans le pétrin. Sa tête ayant été mise à prix par un roi cruel qui s'apprête à le faire exécuter. Chers amis, voilà quelqu'un qui vit une situation de crise terrible. Et il semble ici, en lisant le texte, qu'il n'y a plus aucun espoir pour lui. Toutes les portes se sont fermées, sauf une. Celle qui se trouve en haut, et cette porte, frères et sœurs, ses ennemis ne pouvaient pas la fermer, c'était la porte de la prière. Personne ne pouvait empêcher Pierre de prier. Amen. Personne ne peut vous empêcher de prier, sauf le diable. Vous distraire pour ne pas que vous priez, mais ne peut pas vous empêcher de prier. Lorsque nous vivons une crise, une situation difficile, nous pouvons prier et nous rappeler que lorsqu'il n'y a plus d'espoir sur le plan horizontal, il y a toujours de l'espoir sur le plan horizontal parce qu'on s'adresse à Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à examiner cette prière. On va rentrer vraiment dans le cœur du message ce matin. J'aimerais vous inviter à examiner cette prière parce que si nous ne comprenons pas toujours le mystère de la providence de Dieu, il y a le ministère des membres du peuple de Dieu, le ministère de la prière. Regardons maintenant, verset 5. Frères et sœurs, une des caractéristiques de l'Église primitive, des enfants de Dieu, des chrétiens de l'Église primitive, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ils priaient, ils ne se sont pas arrêtés de prier. Ils se disaient peut-être, pourquoi Dieu ne répond pas à cette prière? Pierre est en prison et Dieu ne semble pas pressé de le faire sortir. Mais Dieu est en train de leur enseigner une leçon sur la prière, frères et sœurs, et une des grandes leçons concernant la prière, c'est celle de persévérer. Persévérer dans la prière jusqu'à ce que vous ayez obtenu la réponse. Dwight Moody et George Muller ont prié pour des conversions. Ils sont morts, les gens pour lesquels ils avaient prié se sont convertis des années après. Mais Dieu a répondu à leur prière. Amen! La persévérance dans la prière, et ça, l'Église primitive avait cette qualité, avait saisi qu'il fallait persévérer dans la prière. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit que Jésus, en adressant une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cela signifie ne jamais cesser de prier. Dans Luc chapitre 11, verset 9 à 10, Jésus dit, « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Le problème, frères et sœurs, c'est qu'on ne frappe pas. On ne frappe pas. Rappelez-vous la parabole de l'ami qui a besoin de quelque chose durant la nuit, qui vient frapper. S'il n'a pas frappé, qu'il était resté devant la porte, il n'aurait jamais dérangé son ami. Hein? Frères et sœurs, Dieu aime à être dérangé. Et Dieu veut qu'on frappe à la porte du ciel. Parce qu'il dit qu'il donne à celui qui demande. Et celui qui demande, il reçoit, frères et sœurs. Et celui qui frappe, eh bien, on lui ouvre. Nous avons besoin d'apprendre que les retards de Dieu ne signifient pas qu'il a rejeté notre prière. Ça ne signifie pas non plus que Dieu ne nous aime pas ou que Dieu nous aime moins qu'un autre. C'est très, très important, ce point de vue-là. Dieu ne nous doit rien et Dieu va répondre en son temps. Il faut persévérer dans la prière. Et regardez ici, regardez avec quelle persévérance il priait. Il est écrit qu'il ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. C'est-à-dire qu'il priait intensément pour lui. Frères et sœurs, lorsque vous traversez une crise, vous appriez, c'est là que vous apprenez à prier avec intensité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui. Abnès commence à faire chaud en haut. Hein? Excusez. Ernest aime bien me faire suer, mais c'est pour mon bien. J'aime bien ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez tout votre cœur. » Voici la condition, promesse, condition. Il y a toujours une condition de rattacher une promesse dans la parole. toujours, toujours, toujours. Frères et sœurs, lorsque vous traversez une crise, vous apprenez à prier avec intensité. Et j'aime bien ce que je viens de dire dans Jérémie. Est-ce que vous vous rappelez que Paul écrit que la prière est une lutte? Dans Romains chapitre 15, verset 30, on va attendre un instant. C'est qui, hein? Qui? Non, mais si on aime bien mettre les gens à l'aise, hein, donc. Frères et sœurs, regardez ce que Paul dit, vous allez comprendre pourquoi c'est difficile de maintenir une vie de prière intense. Paul, dans Romains chapitre 15, verset 30, il dit ceci: « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Frères et sœurs, la prière, c'est un combat. C'est un combat de tous les instants. Avez-vous déjà saisi que la prière demande de faire un effort et que c'est une lutte de tous les instants? Si vous commencez à intercéder, vous allez découvrir que le diable va vous combattre et tout faire pour vous empêcher de prier. Je ne sais pas si vous avez... Moi, c'est le temps que je prie, c'est le temps où je perds ma concentration. Hein? Ouais. Vous êtes à genoux, vous prenez un temps pour prier. Et c'est bizarre, hein? Il y a des choses que vous devez faire dans la journée qui vont commencer à définir. Et là, le diable va réussir à venir vous déposer dans votre tête que, écoutez, si vous priez trop longtemps, vous n'aurez pas le temps de tout faire ce que vous avez à faire dans la journée. Et là, vous commencez à paniquer parce que vous vous dites, non, ça ne peut pas attendre à demain, je dois le faire maintenant. Et là, vous êtes foutu. Hein? Là, vous êtes déconcentré et là, vous êtes incapable de prier. Et bien, il y a un combat dans la prière. Hein? D'abord, apprendre à rester concentré, c'est vraiment pas facile. Et on doit d'abord lire les Écritures avant d'entrer dans un moment de prière, parce que c'est à travers les Écritures, quand les Écritures font en sorte qu'il y a comme deux murs, un de chaque côté, qui empêche le diable de venir nous fracasser à l'intérieur pour venir nous déconcentrer. Et on a besoin de lire les Écritures et nous préparer à prendre ce moment de prière. Et c'est important parce que les défis sont grands concernant la prière. D'abord, le salut de nos proches. Ensuite de ça, le salut du monde dans lequel on vit. Ensuite de ça, prier pour nos gouvernements, pour qu'on puisse se réunir ensemble régulièrement tous les dimanches, qu'on puisse se rencontrer comme bon nous semble. Prier pour différentes raisons, on a tellement de sujets, on le voit le jeudi soir, on a tellement de sujets pour prier, et vous connaissez vos sujets personnels pour lesquels aussi vous priez. La prière demande que nous fassions un effort, et moi, honnêtement, en tant que pasteur, je préfère prêcher une heure que de prier pendant une demi-heure. Parce que je sais que ça va demander un effort beaucoup plus grand de prier pendant une demi-heure que de prêcher pendant une heure. Et c'est peut-être pareil pour vous. La preuve, c'est qu'on peut parler au téléphone pendant une heure avec quelqu'un. Hein? Et raconter n'importe quoi en plus. Hein? Et même quand on voit qu'elle a fini de parler, on la relance avec autre chose pour la garder au téléphone. Hein? Il n'y a pas de combat, là. Hein? Le seul combat, c'est pour se retrouver tout seul au téléphone. Hein? Mais regardez la prière, comment le combat, il est violent. Pourtant, dans la prière, on n'est pas tout seul. Hein? On a décroché la ligne téléphonique et on est en train de parler avec Dieu. Hein? Et Dieu est à l'autre bout de la ligne et il nous écoute. Et Dieu est poli. Il d'abord nous écoute. Ensuite, il veut nous parler. Parfois, nous n'avons pas envie de prier, nous disons, eh bien, je ne prierai pas. Et chers amis, s'il y a bien un temps où nous avons besoin de prier, c'est quand on n'a pas envie de prier. Et vous allez prier parce que vous savez que Dieu, et ça c'est très, très important, Dieu agit uniquement en fonction des prières que ses enfants lui adressent. Si vous ne priez pas, n'attendez pas à recevoir quoi que ce soit de Dieu. C'est une loi immuable et éternelle de Dieu. Moi, je suis venu au Seigneur. Je ne rencontrerai probablement jamais la personne qui a prié pour mon âme. Je vais la rencontrer au ciel, pas sur la terre. Mais Dieu a répondu à sa prière. Que je puisse entendre l'Évangile et que je puisse être sauvé. Dieu, c'est une loi importante qu'on doit retenir. Dieu agit dans nos vies uniquement en fonction des prières qu'on lui adresse. Si on n'adresse rien à Dieu, vous tirez votre plan tout seul parce que Dieu n'est pas dans le décor, frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous flatter dans le bon sens du poil ce matin, je suis là pour vous dire la vérité. Et c'est pour ça que le diable nous bombarde. Hein? Ne vous en faites pas. Hein? Le diable, il gagne sa victoire quand il sait que les chrétiens ne prient pas. Il sait qu'on fait tout par la chair. Et quand on prie, on donne autorité à Dieu d'intervenir dans ma vie, dans la vie des autres. C'est extraordinaire. Non seulement nous persévérons dans la prière, non seulement nous prions avec ferveur, mais la prière nous amène à vivre en communion les uns avec les autres. Et c'est pourquoi c'est un des ministères les plus importants dans l'Église avec l'évangélisation. J'ai parlé de Mission Vacances tantôt, j'ai dit que ce qui faisait aussi la beauté de Mission Vacances, c'est qu'on est réunis pendant une semaine ensemble, on est en communion fraternelle les uns avec les autres. Et la prière ici, regardez le verset 5, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'Église était réunie ensemble. La prière pour eux, la réunion de prière, c'était un temps de communion fraternelle. C'était l'occasion de se revoir ensemble, pas pour manger nécessairement, mais pour prier ensemble, pour pleurer ensemble, pour rire ensemble, mais pour partager les besoins les uns avec les autres. Est-ce que Jésus n'a pas dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, écoutez bien, moi je dis rien, hein, je vous lis un verset. Matthieu chapitre 18, verset 19. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, hein, mais moi je vais vous le lire. Si deux d'entre vous s'accordent, deux, d'abord deux qui sont en règle de Seigneur, on s'entend là-dessus, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Elle leur sera accordée. Promesse. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, ce qu'on demande, ce n'est pas quelque chose qu'on peut recevoir des hommes, c'est quelque chose que seul Dieu peut nous donner. Si Dieu se réjouit lorsque ses enfants prient, il se réjouit davantage lorsque ses enfants se réunissent ensemble pour prier. Il n'y a rien qui nous unisse autant en tant qu'Église que la prière. Si vous avez déjà eu un partenaire de prière, vous savez que votre cœur et le sien sont unis ensemble. On parle de trio de prière, mais aussi des partenaires de prière. Vous savez, vous connaissez les besoins de l'autre. Désolé, hein, je ne peux pas me mettre un maillot de bain pour prêcher. Remarquez qu'il priait avec foi, deuxièmement. J'ai entendu parler d'un jeune avocat qui venait d'obtenir son diplôme et qui venait d'ouvrir un bureau d'avocat dans un immeuble. Il n'avait pas encore un seul client. Il n'avait pas encore vraiment de secrétaire. Mais il avait déjà placé un écriteau dans le passage où se trouvait, dans le couloir où se trouvait son bureau, un écriteau qui indiquait un tel avocat, ainsi de suite, à l'extérieur de son bureau. Et là, il entend des bruits dans son bureau, il est assis dans son fauteuil, il entend des bruits dans le couloir, et pensant que c'était son premier client qui se présentait, il saisit le combiné téléphonique comme s'il était fort occupé, disant, « Bonjour, oui, non, écoutez, je suis vraiment désolé, je peux pas vous recevoir, je peux vraiment pas prendre votre cas avant mardi prochain, je suis débordé, j'ai une affaire incroyable à traiter pour lundi prochain. » Je suis vraiment désolé, écoutez, je ne peux pas vous traiter, je ne peux pas prendre votre cas cette semaine. » Il raccroche. Et pendant ce temps, l'homme qui marchait dans le passage, il est entré, se tenant en face de son bureau. Le jeune avocat lui dit, « Bonjour, monsieur, que puis-je faire pour vous? » Bien, l'homme répondit, « Je travaille pour la compagnie téléphone et je viens pour brancher votre ligne téléphonique. » Il arrive assez souvent, frères et sœurs, que nos prières ressemblent à cela. Nous essayons d'impressionner les gens, mais il n'y a personne qui écoute sur la ligne. Ces gens de l'Église primitive ne cherchaient pas à impressionner qui que ce soit, ils étaient désespérés. Alors ils s'adressaient avec ferveur à Dieu. Et je pense que la raison pour laquelle il nous arrive de ne pas prier avec assiduité, avec ferveur, c'est parce que nous pensons être capables de pouvoir y arriver seuls, sans l'aide de Dieu. Peut-être que la pire chose en ce qui nous concerne, ce n'est pas que notre manque de prière, mais notre orgueil. Ce que je veux dire, frères et sœurs, l'Église vit une époque où on a des ordinateurs, où on a une technique incroyable, on a des plans, on a des méthodes, on a des pasteurs, on a des études bibliques et on a des bâtiments. On a ci, on a ça. Alors on vient à l'Église et on se dit, eh bien, regarde son église, regarde le bâtiment, regarde les personnes, regarde ça, c'est toutes nous qui avons fait ça. Toutes nous qui avons fait ça. Et Dieu est en dehors du décor. Regarde si on est capable, regarde si on est compétent. Et on met Dieu à côté. Et vous savez ce que le diable fait? Il se tient discrètement dans le coin et il rigole en disant, « Vous pouvez avoir vos bâtiments, vous pouvez avoir vos chorales, vous pouvez vous réunir ensemble, vous pouvez inviter des prédicateurs, vous pouvez avoir tout cela et tout ce que vous voulez, même vos études bibliques, aussi longtemps que vous oubliez que la puissance de Dieu se manifeste à travers la prière fervente de ses enfants, vous travaillez en vain. Le diable se moque de nos stratégies pour atteindre les gens. Le diable se rit de nos méthodes. Le diable est plié en deux de voir que nous utilisons nos dons. Mais il tremble lorsque les chrétiens prient dans l'Église, frères et sœurs. Ils prient dans l'Église. Et c'est pour ça que c'est un des ministères où il y a le moins de personnes qui s'engagent, le ministère de la prière. Pierre est en prison et ses gens des églises primitives prient. Ils ne peuvent pas signer de pétition et les faire parvenir aux autorités pour qu'on libère Pierre. Ils n'ont pas d'argent pour soudoyer Hérode, pour qu'on le fasse sortir de prison. Et ils ne connaissent aucun politicien qui pourrait user de son influence pour permettre à Pierre de sortir de sa cellule. Tout ce qui leur reste, frères et sœurs, c'est la prière et ils vont prier. Et c'est pour ça que je vous dis que l'Église dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a tellement, on a notre disposition à votre penser, prier Dieu. On est tellement gâtés. J'ai travaillé avec le pasteur René Hinault il y a plusieurs années au Québec, dans les années 80. Il avait été missionnaire en Afrique pendant une vingtaine d'années. Il me disait, genre, au Québec, tu ne vois pas de miracle. Pourquoi? On a tout. Il dit, en Afrique, par contre, quand on n'avait pas de briques, on se mettait à genoux pour prier. Et on recevait des briques. On n'avait pas d'ouvriers, on priait et Dieu envoyait des ouvriers. On n'avait pas de ciment, on priait et Dieu envoyait du ciment. On avait besoin d'une école, et bien Dieu fournissait toute l'équipe. Et finalement, on bâtissait une école. Pourquoi? Parce que dans certains coins, ils étaient en Afrique, ils n'avaient rien. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de prier Dieu. Et c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, j'ai dit mercredi à l'étude biblique que souvent on prie pour l'Église persécutée. Mais en fait, l'Église persécutée devrait prier pour l'Église non persécutée. Parce qu'il y a beaucoup plus de miracles qui se passent dans l'Église persécutée qui s'en passent dans l'Église non persécutée. Frères et sœurs, on est pourri gâtés ici. Mais pourri gâtés, il n'y a rien qui nous manque. C'est difficile de demander à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Je n'ai pas d'argent, je prends ma carte de crédit. Une autre porte de sortie, hein? Et au Québec, j'ai lu cette semaine que les gens ont plus de crédit qu'ils gagnent de salaire. Ça commence à être un problème, ça, dans la vie d'un couple, hein? Tu gagnes 1 000 euros par mois, puis tu dois en rembourser 1 500. Les mois arrivent vite, hein? Et c'est vrai qu'on est gâtés en Occident, on est gâtés. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose au Canada, on est gâtés, frères et sœurs. Et finalement, on vient vers Dieu. Nos enfants sont malades. Première chose qu'on fait, tout de suite, on va à l'hôpital, hein? Mais est-ce qu'on a remis nos enfants, on n'a pas eu le temps de remettre nos enfants entre les mains du Seigneur, quoi? Pour que le médecin puisse diagnostiquer vraiment ce que notre enfant a? Pour qu'il puisse le soulager de son mal? Ou même le guérir, s'il faut? C'est béni d'arriver à l'hôpital et le médecin te dise qu'il n'y a rien. Nous, on sait qu'on a prié à la maison avant. On sait pourquoi il n'y a plus rien. C'est enrichissant, c'est fortifiant. Mais on a tellement tout que l'enfant est malade, puis tout de suite dans la voiture, on monte à l'hôpital, on remet l'enfant au médecin. En Afrique, on ne fera pas ça, hein, dans certains coins d'Afrique. Hein. On a tout. Quelqu'un de sage a dit, le diable tremble lorsqu'il voit le chrétien le plus faible dans l'église sur ses genoux. Ces chrétiens-ci font confiance à Dieu, leur prière s'adresse à Dieu parce qu'ils savent que Dieu est Dieu qui contrôle l'univers. Nous avons besoin d'apprendre que lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu qui tient l'univers dans sa main. Alors essayez de voir où vous êtes dans la main de Dieu. Vous savez où vous êtes dans la main de Dieu? Dieu qui contrôle l'univers. Vous êtes en plein centre. Il y a un verset qui nous dit dans les Écritures que votre nom est gravé dans la main de Dieu. Votre nom, frères et sœurs, si vous appartenez au Seigneur, votre nom, il est gravé dans la main de Dieu. Et Dieu ne laisse pas tomber les siens. Dieu soutient les siens, c'est des promesses qu'il nous fait. J'ai lu tantôt, psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Votre nom est écrit, inscrit dans le creux de la main de Dieu. Le mot hébreu dit qu'il est gravé, tatoué. Il ne s'effacera pas. Peu importe les tempêtes, il ne s'effacera pas. Peu importe ce que Dieu fait avec sa main, il ne s'usera pas votre nom. Dieu, votre nom est gravé dans la main de Dieu. Amen. Remarquez qu'ils priaient non seulement avec foi, mais ils étaient spécifiques dans leur prière. Verset 5. Il est écrit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Il priait pour Pierre et il priait non seulement avec intensité, mais de manière spécifique. Quel était votre sujet de prière en vous levant ce matin, frères et sœurs? Quel était votre sujet de prière? Est-ce que nous réalisons que plusieurs de nos prières sont si vagues que si Dieu devait répondre à ce que nous lui avons demandé, nous ne le saurions même pas. Et si Dieu ne répond pas à ce que nous lui avons demandé, nous serions incapables de le dire. Seigneur, sauve les perdus ce matin. On fait un appel dans l'église, il y a quelqu'un qui est sauvé, on pense que c'est à cause de notre prière. Non? C'est que peut-être quelqu'un qui dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a prié, qui a invité quelqu'un à l'église et que Dieu l'a sauvé. Il a levé la main parce qu'il avait prié spécifiquement pour lui. C'est important d'être spécifique dans nos prières. Lorsque ces chrétiens priaient pour Pierre, et qu'ils reçurent la réponse, ils savaient que c'était suite à leur prière parce qu'ils avaient été précis dans leur prière. Le texte biblique nous dit qu'ils priaient pour Pierre. Pour Pierre. Comment ferez-vous pour savoir si Dieu a finalement répondu à votre prière si vous n'êtes pas précis dans ce que vous demandez? Bon, j'ai pas le temps ce matin, hein? Je rappelle toujours la fameuse histoire de Hudson Taylor, hein? Il priait pour avoir un vélo. Il était pas en vacances, excusez. Il faisait de l'évangélisation en Chine. Hein? Et il priait pour un vélo. Ça fait des semaines qu'il priait pour un vélo. Il s'appuyait sur les promesses de Dieu. Demande et tu vas recevoir. Frappe et je vais t'ouvrir. Et il ne comprenait pas. Et là, à un moment donné, il est en prière. Il entend l'Esprit de Dieu qui lui dit, écoute, j'ai des dizaines de milliers de vélos pour toi, mais tu ne vas pas demander la sorte, ni la couleur, ni la grandeur du cadre. Il entend ça, hein? Il se met à genoux, il demande pardon à Dieu parce qu'il n'a pas été spécifique. Et il dit, Seigneur, je vais avoir un vélo, telle marque, telle couleur, telle grandeur de cadre, pour aller d'un village à l'autre pour semer ta parole. Deux semaines après, il sort de sa maison le matin, qu'est-ce qu'il voit appuyé contre le mur? Le vélo, la couleur, la marque, la grandeur de cadre qu'il avait demandé au Seigneur. Hey, ça ne fortifie pas votre foi, ça. Vous n'en avez même pas parlé aux chrétiens, hein? C'est entre vous et le Seigneur. Hey, tu dis, il est vivant, hein? Il est vivant, j'ai prié, j'ai parlé, puis il m'a entendu. Il vient de m'apporter le vélo que j'avais besoin. Hey, ça vous booste hein, dans votre vie de prière, hein? Ouais. Tout le monde sait. Vous savez tout ce que c'est, une messagerie vocale. J'espère que j'utilise bien le mot de messagerie vocale. Surtout lorsque vous tombez sur un répondeur. Hein? Vous commencez à parler, puis finalement, ça défile. Hein? N'êtes-vous pas heureux de savoir que dans le ciel, Dieu n'a pas installé pour ceux qui l'appellent, un répondeur ou une messagerie vocale. Pouvez-vous imaginer que vous êtes en train de prier et que vous entendez une voix vous disant « Merci d'avoir appelé au ciel. Vos prières sont importantes pour nous. Veuillez choisir une des options suivantes. Pour une demande, appuyez sur 1. Pour un remerciement, appuyez sur 2. Pour une réclamation, appuyez sur 3. Pour tout autre sujet, appuyez sur 4. Nous sommes désolés, tous les anges disponibles sont occupés. » À venir en aide à d'autres chrétiens. Cependant, vos prières sont importantes pour nous. C'est pourquoi nous répondrons dans l'ordre dans lequel nous les avons reçues. Vous êtes la 708e personne sur 10 000 présentement qui est en ligne. S'il vous plaît, demeurez en ligne. Si vous voulez entendre David chanter un psaume pendant que vous attendez, appuyez sur 4. Si vous cherchez à vérifier si quelqu'un que vous avez apprécié a été amené au ciel dernièrement, appuyez sur 5. Il vous suffit d'entrer son numéro d'identité sociale, suivi du carré. Si vous obtenez une réponse négative, demeurez en ligne et essayez le code régional 666. Pour réserver une place au ciel, appuyez sur J-E-A-N, suivi des chiffres 316. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Si vous avez des questions sur les dinosaures, l'âge de la Terre, la vie sur d'autres planètes et l'endroit où se trouve l'arche de Noé, veuillez patienter jusqu'à votre arrivée au ciel. Pardon. Notre ordinateur montre que vous avez déjà prié une fois aujourd'hui. S'il vous plaît, raccrochez et essayez encore demain. Le bureau est maintenant fermé pour le week-end afin de célébrer une fête religieuse. Nous vous invitons à prier à nouveau lundi matin à partir de 9h30. Si vous appelez après les heures d'ouverture et que c'est urgent, contactez le pasteur de votre localité. Merci d'avoir appelé au ciel. Heureusement qu'on ne serait pas heureux hein, si Dieu agissait ainsi, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu qui dit... Appelle-moi et je te répondrai. Appelle-moi et je te répondrai. Extraordinaire, hein? Ouais. Extraordinaire. Voici la troisième chose que nous avons besoin de nous rappeler. Lorsque nous vivons une situation de crise, nous devons nous reposer sur la paix que Dieu donne à ses enfants. Verset 6. Regardez ce qui est écrit. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Je ne sais pas si les soldats dormaient, mais il est dit ici que Pierre dormait. De plus, des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre, frères et sœurs, étaient en cellule en train de dormir alors qu'il serait exécuté le lendemain. Moi, je ne serais pas prêt à lever ma main en sachant qu'on me couperait la tête le lendemain matin, je ne suis pas convaincu que je dormirais dur, sans aucune inquiétude. Et c'est ce que Pierre ici est en train de faire. Hein? Peut-être que je tournerais dans ma cellule et dire, Seigneur, envoie des gens, quoi, dépêche-toi, grouille-toi, Seigneur. Hein? Agis, Seigneur, entends ma prière, Seigneur. Hein? Pierre, il ne prie même pas. Pierre, il dort. C'est ça, c'est le texte. Hein? Pierre, il dort. Et il dort tellement profondément que l'ange, quand il rentre dans sa cellule, il doit le frapper dans les côtés pour le réveiller. Il doit le frapper dans les côtes. Et il n'y avait pas de Valium à l'époque de Pierre, hein? Pas de médicaments. C'est extraordinaire. Et voici un ange du Seigneur, verset 7, sur 20, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Essayez d'imaginer la scène. L'ange est en train de dire à Pierre, « Hey Pierre, réveille-toi, réveille-toi. » Et Pierre est là, il est en train de dormir. Il dit, « Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi. » Frères et sœurs, Pierre avait la paix de Dieu au milieu de la tempête. Pierre avait cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence au milieu des ouragans, au milieu des tsunamis, au milieu de la tempête. Et j'ai réfléchi à cette situation pendant que je préparais ce message. Je me suis dit, comment Pierre pouvait-il dormir face à une situation aussi dramatique? Premièrement, frères et sœurs, et ça s'adresse à tous les chrétiens nés de nouveau, Pierre n'avait plus peur de la mort. Il pouvait dire comme Pierre, la mort m'est un gain. Terminer la souffrance, terminer la persécution, terminer la maladie, terminer les tempêtes. Pour lui, c'était un gain. Il a vu le Christ ressuscité pour lui. La mort n'a plus d'emprise sur lui. Il sait qu'elle n'est plus un épouvantail pour lui faire peur. Deuxièmement, il sait que les membres du peuple de Dieu prient pour lui. Quel réconfort, quelle joie, quelle victoire pour lui. Et frères et sœurs, j'ai parfois le sentiment que lorsque je fais ce que je fais, il y a cette sorte de paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre, parce que je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui prient pour moi. Et quel réconfort de penser que des gens prient pour moi. J'ai appelé Piotr cette semaine, je lui ai dit, écoute, on a prié pour toi, Piotr, on continue à prier pour toi. Et il dit, je ressens les prières des frères et des sœurs. Ah! Et malgré sa douleur, il se réjouissait de savoir qu'on était derrière lui dans la prière. Pierre savait que ses frères et sœurs en Christ bombardaient le ciel pour lui. C'est la raison pour laquelle il dormait. Il était également conscient que Dieu était présent dans sa cellule à côté de lui parce qu'il se rappelait cette parole du psalmiste. « Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. » Psaume 121:4. « Celui qui vous garde, frères et sœurs, il ne sommeille jamais, il ne dort jamais. » Amen. Oui. J'ai entendu parler d'un homme qui vivait une situation pénible et qui était incapable de dormir. Jusqu'à ce qu'il pense à ce verset que je viens de vous citer, « Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. » Il a dit, « Bien, Seigneur, on n'a pas besoin de rester tous les deux pour veiller toute la nuit. Bonne nuit, moi je m'en vais dormir pendant que toi tu restes réveillé. » Intéressant, hein? Il est écrit dans Isaïe, chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, qui garde ses positions dans la foi, tu assures la paix. » La paix parce qu'il se confie en toi. Chers amis, habituons-nous à lui remettre notre problème. Faire confiance au Seigneur, peu importe la gravité de notre problème. Il est capable d'encaisser et de régler notre problème. Amen. Frères et sœurs, on vous dit que vous avez un cancer. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que de prier? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que de prier en tant que chrétien né de nouveau? Bien sûr qu'il faut aller voir un médecin. On a des médecins à notre disposition, on a des oncologues à notre disposition. Maintenant, je peux vous dire une chose. Vous pouvez avoir des relations médicales. On peut vous fournir le meilleur médecin. Si Dieu décidait que c'était terminé, c'est terminé. On peut vous donner le pire des médecins. Et si Dieu dit, tu, moi je te guéris, tu vas poursuivre ton chemin, ton pèlerinage, il n'y a personne qui va venir vous chercher, hein. On ne dépend pas des médecins, on dépend de la grâce de Dieu. Tout ce qu'on a, c'est de prier pour que le médecin fasse son travail. Amen. C'est important. Hein? Quand j'ai eu mon cancer, qu'on m'a donné 6 mois à vie, c'est inopérable, hein? Je me suis remis dans la main du Seigneur. Hein? Il vous annonce ça en pleine face. Hein? Vous dites, quand il vous dit cancer, c'est à côté, vous avez le mot mort qui apparaît tout de suite. Hein? Ouais. Et j'ai dit, écoute, je vais prier là-dessus, je vais mettre une toison. Prie pas trop longtemps, dans 6 mois, je suis enterré. C'est ce qu'il m'a dit, hein, le pasteur, le docteur Paulusson. Ouais, fais rien. J'ai mis une toison devant le Seigneur. Et je suis revenu 2 semaines après, j'ai dit, OK, je vais suivre le traitement. Frères et sœurs, j'en ai vu à l'hôpital, moi, des gens qui marchaient par leur orgueil, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, des athées, hein. Ouais. Et là, je visitais les chambres, en attendant de recevoir ma prescription, je leur témoignais, hein. Ah, je vais m'en sortir, ouais. Et là, il regarde pas en haut, hein? Ouais. Et là, le médecin vient dire, écoute, c'est fini le traitement, ton cancer s'est installé dans ton corps, on ne peut plus rien faire, on te donne de la chino, ça ne change rien. Ouais. On est suicide, on est déprimé, on est tout ça. Ouais, non. Nous, on sait où on s'en va, frères et sœurs. Et notre temps, il est déjà compté, avant même qu'on vienne au monde, le Seigneur, quel jour il va nous rappeler. Et ça, c'est la paix que Dieu donne aux enfants qui sont à ses enfants qui sont nés de nouveau, la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4. Frères et sœurs, au milieu de la tempête, je me moque de ce qui peut m'arriver parce qu'il est écrit à celui qui est ferme dans ses sentiments parce qu'il se confie en toi, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Apprenons à enlever nos yeux sur la tempête que nous traversons et plaçons nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ qui est en contrôle de la tempête. Rappelez-vous, Pierre, qui a voulu marcher sur l'eau. Jésus est en contrôle de la tempête. Les tempêtes, elles viennent, c'est aussi pour tester la valeur de notre foi, la mesure de notre foi. On en est rendu dans notre foi. Facile de dire la foi quand j'ai 2 millions dans mon compte de banque. Facile de dire la foi quand je suis en pleine santé. Facile de dire la foi quand j'ai un bon travail, quand j'ai un bon fonds de pension. Facile de dire la foi. Et quand Dieu commence à rentrer dedans, ouh! Ouais! Ah! Là, t'es malade! Ah! Et là, on t'annonce que tu ne pourras plus travailler à cause de ta maladie. Ah! Est-ce qu'on a la même foi? Frères et sœurs, Dieu provoque des choses, des crises dans nos vies, aussi pour mesurer, qu'on puisse mesurer la valeur de notre foi. Je m'adresse maintenant à ceux qui ont mon âge. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez vu une porte automatique? Je me rappelle que je vous parle des années 60, hein, je me rappelle que j'étais dans le centre-ville de Montréal avec mon frère, et nous sommes arrivés devant une porte qui est ouverte toute seule. Bon, mon petit-fils, il se promène là-dedans, et il s'amuse à les faire ouvrir, fermer. Bon, je suis obligé de lui dire qu'on ne chauffe pas la ville de Liège, il faut quand même que les portes restent fermées, quoi. Alors, et on est arrivé devant une porte, et ça s'est ouvert toute seule. Et on est retourné plusieurs fois. Vous savez ce que les enfants font? « Oh, papa, regarde, papa, ça s'ouvre, ça se ferme. » Ben oui, mais le marchand n'est pas trop content. Hein? Alors, et à chaque fois, la porte s'ouvre toute seule. C'était quelque chose qui me dépassait, une porte qui s'ouvre toute seule. Je parle dans les années 60. Hein? Pourtant, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons ici, au chapitre 12, une porte en fer qui s'ouvre toute seule. Et Pierre sort en suivant l'ange. C'est un récit incroyable qui nous rappelle, frères et sœurs, la puissance de Dieu. J'aimerais que vous voyiez rapidement, en terminant, comment Dieu a agi avec puissance ici. Certains auraient pu penser que Dieu était impuissant à faire quoi que ce soit dans cette situation, ou que Dieu était indifférent et qu'il ne se souciait pas de Pierre. Pardon. Il est même possible que vous puissiez avoir ce sentiment aujourd'hui, face aux problèmes que vous vivez. Vous êtes peut-être en train de vous dire, où est Dieu? Dieu est-il capable de résoudre mon problème? Est-ce que Dieu se préoccupe de ce que je suis? Il est intéressant de remarquer ici que Dieu a délivré Pierre au dernier moment. Si vous lisez la biographie de Georges Müller, Dieu s'est toujours amusé de répondre au dernier moment aux prières de Georges Müller. Il avait 1200 orphelins, il n'y avait pas de nourriture pour le lendemain matin, c'était le soir. Tout ce que Georges Müller a fait, c'est de prier. Il dit, on reconnaît tous que c'est l'œuvre de Dieu, les 1200 orphelins, on n'a jamais demandé un sou à qui que ce soit. Dieu va pourvoir, je suis convaincu que Dieu ne perdra pas son nom pour 1200 enfants. Et surtout pas pour Georges Müller. Il a prié. Le laitier avec sa charrette est tombé en panne juste en face de l'orphelinat le matin. Et pour réparer sa roue, il a dû tout sortir les gros bidons de lait qu'il avait. Il est allé frapper à l'orphelinat et il a dit, « Monsieur, est-ce que vous voudriez prendre mes bidons de lait? Je vais les perdre. Il n'y avait pas de réfrigérateur à ce moment-là. Vous voulez les prendre parce que je ne pourrais pas livrer mon lait. J'attends quelqu'un. Ça peut prendre toute la journée. J'attends quelqu'un pour réparer ma roue. » Ensuite de ça, il y a un boulanger qui arrive, qui vient frapper à la porte de l'orphelinat. Il dit, « Monsieur Müller, je ne sais pas ce qui s'est passé. À 4 heures du matin, il y a une voix qui m'a réveillé, qui m'a dit, « Écoute, tu fabriques 400 pains. 400 pains pour l'orphelinat. 400 pains. Ouais. » Et il a pu nourrir ses 1200 enfants. Et quand Georges Müller est mort, il dit, « J'ai vécu dans la richesse. » Dans la richesse. infinie de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, c'est difficile pour nous de dire ça. On a tout. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne panique jamais dans ce genre de choses. En fait, si nous avions à donner un titre à ce que Pierre est en train de vivre, bon, vous savez comment on aurait pu dire ça? Un moment de détente dans la vie de Pierre. Un moment de détente dans la vie de Pierre. Il va se faire couper la tête le lendemain matin. Mais... c'est comme s'il était en vacances. Lorsque l'ange vient voir Pierre dans sa cellule, il doit le réveiller. Ah, réveille-toi. Il doit donner un coup dans les côtes, comme je lui ai dit tantôt, en disant, hey, fiston, c'est l'heure, il faut sortir. Quelle heure est-il? Demande Pierre. Quelle heure est-il? Dormez profondément. Ne t'occupe pas de l'heure, lui dit l'ange. Viens, je vais te faire sortir de prison. Habille-toi, on s'en va. C'est comme si l'ange disait à Pierre, allez, Pierre, on change d'hôtel. Cet endroit, c'est pas digne de toi, quoi. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, nous dit le texte biblique, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange quitta la pierre. Frères et sœurs, il y a quelque chose d'important ici, d'intéressant à remarquer. Après qu'ils eurent passé la porte de fer qui mène à la ville, Pierre va se diriger directement à l'endroit où se tient la réunion de prière. La porte d'entrée, elle est verrouillée, et les chrétiens continuent à prier. Pierre est maintenant hors de prison et il réalise que ce n'est pas une vision qu'il a eue, mais que finalement, il a vécu la réalité. Il se dirige alors là où se tient une réunion de prière et en arrivant sur les lieux, il frappe à la porte. Une servante, elle s'approche pour écouter. Elle reconnaît la voix, verset 11-12. Elle reconnaît la voix de Pierre et ce, dans sa joie. Au lieu d'ouvrir, elle court. Elle fait demi-tour puis elle court pour avertir les autres. « Hey les amis, Dieu a entendu notre prière. C'est Pierre qui se trouve à la porte, qui vient de frapper. » Il lui dit, t'es folle. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique. Tu es folle. C'est fort, hein? Il prie. Écoutez, il prie pour que Dieu exauce la prière. Elle leur dit que Pierre est à la porte. Il dit, t'es folle. Voyons donc. À dire quoi? Ben, Dieu ne peut pas répondre aussi vite, quoi. Ben, écoute, il faut que Dieu bouge quand même. C'est le lendemain matin qu'il doit se faire décapiter, quoi. Alors, faut que Dieu réagisse durant la nuit, quoi. Ouais. Tu es folle, tu as sûrement une vision. Veux-tu nous laisser, je pense qu'elle s'appelait Rhonda, non? Oui. Ah, Raoul. Tu es folle, tu as sûrement une vision. Veux-tu nous laisser que nous continuions à prier pour que Dieu fasse sortir Pierre de prison? Mais il est sorti, je vous le dis, il est sorti. Mais elle persista à dire que Pierre était devant la porte. Et Pierre continuait à frapper, demandant d'entrer. Frères et sœurs, à bien y penser, là. Savez-vous qu'il était plus facile à Pierre de sortir de prison que d'entrer dans la maison où on priait? Étonnant, n'est-ce pas? Si le Seigneur pouvait ouvrir les portes d'une prison, ne pensez-vous pas qu'il pouvait faire en sorte que cette porte de maison puisse s'ouvrir? Frères et sœurs, il est important de nous rappeler que la prière n'est jamais une excuse pour la paresse. Il n'y avait aucun moyen pour Pierre de voir cette porte de prison s'ouvrir, mais il y avait une autre façon de voir cette porte ouvrir. Il y a certaines choses que nous pouvons faire et la prière n'est jamais une excuse pour la paresse. Nous avons besoin de comprendre que nous devons prier Dieu pour notre pain quotidien, comme je l'ai dit tantôt. En Europe, c'est un peu difficile. Mais Dieu dit aussi que si quelqu'un ne veut pas travailler, ben, il n'y a pas besoin de manger non plus. Moi, je trouve là l'équilibre, finalement, de la parole de Dieu. Ici, on voit Dieu qui agit avec puissance et Dieu est toujours sur son trône, frères et sœurs. Il n'y a rien qui peut ébranler le trône de Dieu. Chers amis, ce matin, si vous vivez une situation difficile, et que Dieu veut vous délivrer, ne vous délivre pas, pardon. Rappelez-vous qu'il n'a pas délivré Jacques. Et ce, non pas parce qu'il ne le pouvait pas ou parce qu'il l'aimait moins que Pierre. Si Dieu n'agit pas selon ce à quoi vous vous attendiez, cela ne signifie pas que Dieu n'est pas en train d'agir. Si le diable semble triompher, rappelez-vous que le succès qu'il remporte n'est que temporaire. Il a déjà été vaincu. Woodrow Wilson, président des États-Unis, a dit un jour ceci, « Je préfère échouer temporairement dans une cause qui doit finalement un jour remporter la victoire que de connaître le succès temporairement dans une cause qui finira par un jour connaître un échec retentissant. » Si vous vivez une situation de crise ce matin et que vous vivez quelque chose de terrible, je vais vous rappeler encore une fois les quatre choses que vous devez retenir. Premièrement, ne cherchez pas à comprendre ce qui vous arrive. Vous ne comprendrez jamais tout. On a combien de fois on se dit, ça vient, il y a quelque chose qui nous arrive en pleine figure. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? pas cherché à comprendre. Job disait de son temps, il a pas trop cherché à comprendre aussi. Hein? Job était juste, intègre et droit. Et il avait l'air d'une grosse croûte hein, dans sa maladie. Il n'était pas regardable. Hein? Les gens le méprisaient tellement il était atteint dans son corps, dans sa peau. Hein? Et pourtant, il est resté fidèle. Ne cherchez pas à comprendre premièrement ce qui vous arrive, vous ne comprendrez jamais tout. Deuxièmement, rappelez-vous la ressource que Dieu met à votre disposition dans la prière. Seigneur, tu vois ce que je vis, la situation elle est difficile. J'ai aucun moyen, à moins d'utiliser ma chair pour réagir, Seigneur, ce qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, j'ai aucun moyen. Je ne vois aucun moyen pour l'instant pour me sortir de cette situation. Seigneur, je te remets cette situation entre tes mains. Toi, tu as déjà la solution, Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16, verset 13, je sais que tu as la situation en main, que tu contrôles tout, et je sais que tu as déjà la solution pour m'en sortir. Jacques, la solution, c'était... Il n'est pas perdant, hein? Il est dans le paradis. Il n'est pas perdant, hein? Il est au paradis. C'était la solution de Dieu pour lui. À vue humaine, c'est épouvantable, quoi. Mais quand on est né de nouveau puis qu'on a une espérance vivante de passer l'éternité dans la présence de Dieu, chaque solution que Dieu a pour nous, elle est bonne. Hein? C'est toujours la bonne. C'est toujours la meilleure. On prie pour des guérisons. Hein? C'est vrai qu'on prie pour nos malades. Mais si Dieu a décidé que c'était son temps de revenir, c'est pas parce que Dieu n'a pas écouté nos prières. Il a répondu à notre prière, mais à sa façon. Hein? Quand les gens sont rendus à 105, 106 ans, il faut à un moment donné lâcher prise. Hein? Dieu veut les avoir auprès de lui à un moment donné, hein, ses enfants. Oui, même les plus robustes. Mais c'est certain que nous, en tant que chrétiens, on prie pour leur guérison, jusqu'à ce que la personne dise « Arrêtez de prier, moi je vais retourner auprès de mon Sauveur. Quoi. Je vais entrer dans la gloire de Dieu le plus rapidement possible. Je vais être promu à la gloire de Dieu. » Alors rappelons-nous, deuxièmement, la ressource que Dieu met à notre disposition à tout chrétien, la prière. Troisièmement, fixons nos yeux sur Jésus, fixons nos yeux sur Dieu et non pas sur tout ce qui nous arrive. Et reposons-nous dans son amour. Seigneur, j'ai la certitude que tu m'aimes. Voilà pourquoi je m'adresse à toi. Seigneur, tu m'as dit que tu ne rejetteras jamais personne qui vient à toi. Ton enfant vient à toi ce matin. Regarde mon problème, Seigneur. Regarde mon problème. Et là, je regarde tellement ce problème-là, je le prends tellement pour moi, Seigneur, que je commence à avoir des ulcères d'estomac, Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait des ulcères d'estomac. Seigneur, libère-moi de tout ça. Prends ça entre tes mains, Seigneur, et accorde-moi la grâce d'accepter ta décision, même si ce n'est pas celle que je voudrais avoir. Permets-moi d'accepter ta décision et de reconnaître que c'est ta décision, Seigneur. Amen. Et finalement, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à voir Dieu agir avec puissance en son temps, à sa façon. Ayez la certitude qu'il interviendra. Jésus-Christ est avec nous dans chaque crise que nous vivons. Il a dit, réjouissez-vous. Prenez courage, j'ai vaincu le monde et je serai avec vous tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 20, j'aime bien dans la version français courant. Et sachez-le, je veux que vous le sachiez, je serai avec vous tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, un des derniers versets. Jésus-Christ est avec nous dans chaque crise que nous vivons. Il est le Dieu qui nous délivre, frères et sœurs. Il est le Dieu de ma délivrance. Il y a un cantique là-dessus, hein? Il est le Dieu de ma délivrance. Facile à dire, facile à chanter, c'est plus difficile à vivre, mais c'est une question de foi, le juste vivra par la foi. Amen. On va se lever, on va chanter un cantique.